vous avez dit hier que l'appréhension est avant le jugement d'existence. Que voulez-vous dire? Dites-vous cela du point de vue critique, donc du connu, car dans l'ordre réel, je ne peux appréhender la forme sans le jugement d'existence. C'est très mystérieux comment un enfant commence à penser. Nous essayons de penser en métaphysique, en philosophie. C'est déjà très évolué comme pensée. Nous avons pensé beaucoup avant. Comment un enfant apprend à penser? Le devenir. Il est toujours très confus. Hein. Et il apprend par le langage. Très souvent. Pas uniquement. Jésus se demande comment l'enfant Jésus a commencé à penser. Alors, lui, il avait tout de suite une intelligence très éveillée. Comme existant verbe de Dieu. Un enfant, c'est très mystérieux. Il dit des mots. Alors, le jugement d'existence est toujours présent, c'est sûr, mais à l'état confus. Quand vous analysez, alors dans l'analyse, vous dites l'appréhension est première, mais dans l'analyse critique, vous voyez que ma connaissance n'est pas simple. Je dis, il y a l'intuition. Hein. L'intuition est complexe, elle est simple. D'une certaine manière, par rapport au raisonnement, c'est simple. Le jugement, ceci est. C'est une opération très simple, mais vous l'analysez. Et vous, dans l'analyse, vous voyez qu'il y a une appréhension. Et alors, il faut bien distinguer, je crois, dans la vie même, mon intelligence est tout de suite dans le jugement. Un enfant ne s'arrête pas au jugement. La parole, on apprend la parole, les mots, signification des choses. Et c'est pour ça que, au fond, l'ordre génétique est très caché du devenir de mon intelligence. C'est évident que l'intelligence n'est elle-même que dans le jugement. Et ce jugement le plus simple, je puis le préciser. Mais j'ai déjà exercé beaucoup mon intelligence avant de faire de la métaphysique. Avant de faire de la métaphysique, j'ai appris à parler, j'ai appris à connaître. Comment avez-vous appris à connaître? C'est très nébuleux, hein. Premier moment où vous avez pris conscience que vous connaissez. C'est très nébuleux. Ma connaissance est née à travers l'imagination. Un enfant a touché tous les sens externes. Sûrement que le toucher est le premier des sens avant même de la vue. Il a touché dans le sein maternel, mais il n'avait pas conscience. Sauf des exceptions. Autrement, il n'avait pas conscience. Donc, alors, vous voyez, quand on dit que l'appréhension est première, c'est l'analyse. L'analyse de la vie d'intelligence. Parce que tout jugement présuppose appréhension. Mais elle n'est pas séparée. Ma vie d'intelligence implique le jugement, c'est évident. Et cette vie d'intelligence implique le toucher. Vous n'avez pas de connaissance avant le toucher. Et c'est à partir du toucher que vous avez eu la connaissance. C'est comme à commencer votre agent. Et alors, la connaissance métaphysique commence avec le jugement d'existence. Avec consciemment le jugement d'existence. Or, le jugement d'existence implique la dualité. Ceci est. Et dans le ceci est, il y a donc deux éléments. S'il y a deux éléments, je peux préciser lequel est connu d'avance, lequel peut se séparer. Et je ne peux pas avoir de jugement sans appréhension, mais je peux séparer l'appréhension du jugement. Et c'est en ce sens que dit que le jugement est antérieur, mais pas dans le temps. Dans le temps, les deux sont toujours ensemble. Il n'y a pas d'abord connaissance de l'appréhension, puis du jugement, non. L'enfant juge très vite. Très vite, il a contact avec la réalité. Et les deux sont ensemble. Alors, dans l'analyse, je précise qu'il y a deux moments, l'appréhension et le jugement. Donc, c'est le fruit d'une analyse. C'est pour ça que certains ne l'acceptent pas. Certains n'acceptent pas cette distinction appréhension-jugement, disent la connaissance. Cogito. Mais le cogito, je pense, ça implique jugement et appréhension, c'est bien évident. Quand je dis je pense. Alors, vous voyez, c'est le fruit d'une analyse. À quel moment cette analyse s'est faite, ça dépend énormément des individus. Puisque certains, même en faisant de la philosophie, n'arrivent pas à distinguer appréhension et jugement. Chez Platon, y a-t-il une distinction entre l'appréhension et le jugement ? Non. Il y a l'idée en soi. La chose en soi. L'idée. L'idée, elle implique un jugement. Et la plus grande appréhension. C'est vraiment Aristote, le premier, qui fait cette distinction. Et elle est très importante pour nous. Parce que dès que nous avons à étudier ce qu'est la foi, est-ce que la foi va impliquer une nouvelle appréhension ? Non. Elle implique un nouveau jugement. Vous n'avez aucune idée nouvelle qui vous est donnée par le mystère de la foi. Mais il y a un jugement nouveau. Ce qui montre bien, du reste, la grâce suppose la nature. La foi suppose intelligence. et vous n'avez pas un concept nouveau donné par la foi. La foi ne vous enrichit pas d'un concept qui est le concept du croyant. Le croyant et le non-croyant se distinguent par l'affirmation. Dieu m'a parlé. Et quand vous dites Dieu m'a parlé, vous recevez la parole de Dieu. Et vous distinguez le croyant du non-croyant par le fait Dieu m'a parlé. Abraham dit Dieu m'a parlé. Il ne dit pas comment. On aurait bien aimé. Abraham a la joie de ne pas connaître cet état réflexif dans lequel nous sommes. Comment Dieu lui a-t-il parlé? Comment ça s'est fait? J'en sais rien. Abraham dit, Dieu m'a parlé. C'est tout. Alors, le croyant comprend. Mais celui qui n'est pas croyant, Dieu m'a parlé, oui. Ben oui, il s'est réveillé en imaginant que Dieu lui avait parlé. Alors, on ne voit pas de distinction entre l'acte de foi et l'imagination dans laquelle je peux dire Dieu m'a parlé. Et c'est pour ça que la foi nous apporte un jugement surnaturel, nouveau, qui n'est pas le jugement « ceci est », qui est « Dieu est mon Créateur ». Et Dieu m'a parlé. Le jugement du croyant, c'est « et Dieu m'a parlé ». Alors, la parole de Dieu m'apporte-t-elle de nouvelles appréhensions? Vous posez le problème. Point d'interrogation. Est-ce que la parole de Dieu m'apporte de nouvelles appréhensions? Non. Elle vous apporte un nouveau jugement. Puisque précisément la connaissance de foi est dans l'obscurité. Vous pouvez avoir un mouvement nouveau dans le jugement. Vous adhérez à la parole de Dieu. Mais vous n'êtes pas plus intelligent parce que vous êtes croyant. Et si Dieu m'avait parlé dans une langue spéciale, en tant que croyant, je comprendrais cette langue. Et on aurait, entre tout chrétien, ma langue chrétienne. Je l'ai pas. Je n'ai pas une langue particulière parce que je crois. Je crois dans un langage anglais, dans un langage allemand, dans un langage français. Donc, la question de la diversité des langues ne marque pas ce que c'est que la foi. C'est sûr. Les dogmes ont été donnés en grec, ils ont été donnés en latin, et maintenant ils sont donnés dans toutes les langues. Et donc, distinguer la parole, elle provient de la connaissance. Normalement, je parle quand je connais quelque chose. C'est le problème de la parole. Quand je suis dans le brouillard complet, j'aime mieux me taire. Quand j'ai une connaissance claire, j'ai envie de parler. Pensez quand vous avez envie de parler, de rompre le silence. Vous avez conscience quand même de ça. Vous avez conscience de rompre le silence. Parce que vous avez une idée très pressante qui vous presse, il faut le dire. Alors c'est quelquefois d'ailleurs tout à fait pratique. Il faut le dire avant midi. Mais il faut dire quelque chose. C'est rare que vous voulez rompre le silence pour une idée intuitive de la métaphysique. C'est plutôt rare. Le monde serait très silencieux s'il ne parlait que d'une trouvaille métaphysique. Mais on réfléchit sur ce qu'on a comme expérience. Et quand Abraham dit « Dieu m'a parlé », il n'explique pas que à quel moment de la nuit, quel moment du matin, quel moment... Non, c'est très simple, Dieu m'a parlé. Moi, ça me ravit toujours, ça. C'est tellement simple. Et la révélation commence. Donc vous voyez bien, quand je dis qu'appréhension est premier, c'est-à-dire que l'appréhension peut s'isoler du jugement. Tandis que le jugement implique toujours une appréhension. Et alors ça, c'est peut-être plus clair pour vous. Tout jugement implique appréhension. Toute appréhension ne se prolonge pas toujours dans le jugement. Quand je dis homme, je pense à homme. Quand je dis animal, vous distinguez là l'appréhension générique, spécifique, propriété, accident. Pas le jugement, c'est l'appréhension. Et vous précisez une appréhension beaucoup plus complexe. Pouvez-vous appréhender l'être ? Avoir un concept de l'être. Or, ce concept de l'être implique tout le temps un jugement. L'appréhension des transcendentaux implique un jugement, tandis que l'appréhension générique n'implique pas le jugement. Dans toutes vos connaissances métaphysiques, philosophiques, le jugement est présent. Quand je dis par exemple, la philosophie ne spécule pas sur le possible. Le possible, c'est une appréhension isolée du jugement. Du jugement d'existence, ceci est. Alors vous avez à ce moment-là une proposition qui est au-delà du jugement d'existence, qui est séparée du jugement d'existence. Il est possible que... Et c'est donc dans l'analyse et forcément... Dès que je suis en métaphysique, je suis à un niveau qui implique l'analyse. Et je précise l'expérience. Toute expérience implique le jugement. Toute expérience implique une appréhension. Et dans le jugement d'existence, il y a appréhension et jugement. Ceci est. Et vous distinguez en disant « ceci, je le saisis dans une appréhension. » Et « ceci est, je le saisis dans un jugement. » Et voyez, ce que je vous disais, on a eu à Fribourg comme ça, parce qu'il y avait un autre professeur qui enseignait aussi la philosophie, et puis qui disait aux étudiants « ceci et ceci est, c'est la même chose. » Donc, vous voyez, il ne distinguait pas appréhension et jugement. Et alors, on a eu un cours ensemble pour pour voir que, eh bien, lui, il avait la position de Husserl, la mise entre parenthèses de l'être. La mise entre parenthèses de l'être fait qu'on reste uniquement dans l'appréhension. Oui, l'influence mathématique. Puisque Husserl était un mathématicien. Il avait fait son doctorat en mathématiques. Et des mathématiques, il a voulu pousser la philosophie. C'est très important de voir que sa philosophie implique cette abstraction mathématique et il ne rejoint plus le réel. Et au terme, ce qu'il y a d'ultime, c'est la valeur. Je comprends que c'est pas commode hein, au début, parce que la distinction de l'appréhension et du jugement, elle est absolument nécessaire pour comprendre que, par exemple, que la foi est un jugement nouveau. Aucune appréhension nouvelle. Dieu n'a pas inventé un langage pour me parler. Dieu aurait pu inventer un langage. Et ce langage n'aurait eu de sens que pour les chrétiens. Mais Dieu a pris le langage humain. Et Dieu, prenant le langage humain, c'est déjà l'orientation vers le mystère de l'incarnation. Il a commencé de prendre la nature humaine par son langage. C'est intéressant, tu restes à comprendre ça. Et le langage, puis l'amour. Parce que quand vous regardez le Cantique des Cantiques, un livre inspiré, Dieu n'invente pas un mot spécial pour l'amour. Oui, le théologien dira la charité. Mais la charité, c'est le théologien qui précise ça. En réalité, c'est l'amour. L'amour divin. Alors il y a un jugement particulier sur cet amour divin. Cet amour qui vient de Dieu, qui fait que Dieu m'aime. Mais c'est le mot amour qui a une signification analogique qui peut signifier l'amour humain comme l'amour divin. Quelle différence y a-t-il entre l'amour humain et l'amour divin? Ils sont tous les deux amour. Alors quelle différence peut-être? Ah, dans le jugement. L'amour divin regarde en moi ce qui m'apparente à Dieu. L'amour humain regarde dans l'être que j'aime ce qui m'apparente avec lui. Similitude humaine, dans ma nature humaine. Et progressivement, alors en théologie, on fait toujours le point de vue, distinction entre les deux. Mais en philosophie, appréhension, jugement, ceci est. Vous l'analysez, vous voyez ceci. Et quand ai-je eu le concept de l'être? Le concept de l'être, je ne l'ai jamais sans jugement. Comme les transcendantaux. Je n'ai jamais le jugement sur la bonté sans jugement. Je n'ai jamais le concept de vérité sans jugement. Et ça montre ce qui distingue l'appréhension simple qui aboutit au genre. Animal. Et l'appréhension des concepts transcendantaux qui ne sont pas séparés de l'être, de l'exister, donc du jugement. Vous voyez ? Ça peut aider de comprendre ces deux types d'appréhension que nous pouvons avoir et que nous avons nécessairement dès que nous abordons la philosophie, dès que nous abordons les mathématiques, dès que nous abordons les sciences. Il y a le jugement, l'abstraction universelle, commune avec tout le monde. On parle la même langue, on a donc la même appréhension, le même mot. Et on apprend une langue en apprenant les mots, puis après les jugements. Et le jugement apparaît différent selon les différentes langues. Mais on a l'abstraction universelle. L'abstraction universelle est commune à toute l'humanité. Même aux Chinois. Alors, sans doute, il y a une petite différence. Et puis, l'abstraction formelle. Et l'abstraction formelle implique le jugement. Tandis que dans l'abstraction universelle, le jugement n'est pas présent. Tandis que l'abstraction formelle implique le jugement. Et elle se fait à partir du jugement. Je suis, du reste, on le dira, nous faisons de la philosophie et nous sommes en métaphysique. Je le sais. Donc mon langage n'est pas le langage du journaliste. Mon langage est le langage du philosophe, dans l'abstraction particulière de la philosophie, qui essaie de tout regarder sous le point de vue de l'être. Tandis que le journaliste ne s'occupe pas beaucoup d'être toujours sous le point de vue de l'être. Il regardera les possibilités. Il sera un langage des possibles. Ouais. J'ai dit, cette conférence de Boeuf-Meury à Fribourg sur la vérité, et bon, c'était la vérité du journaliste. Il s'est fait une idée d'un événement et il va constater si c'est juste. Tandis qu'au contraire, le philosophe ne se fait pas une idée de ce qu'il veut connaître de l'homme, il veut le découvrir. Parce que il veut le voir sous le point de vue de l'être. Je ne veux pas voir le philosophe, l'homme sous le point de vue de son exercice, sa manière de penser, ça fera partie de mon regard, mais pas tout de suite. Je le regarde d'abord sous le point de vue de l'être. Alors, ne vous inquiétez pas, ça vient petit à petit. Hein, parce qu'au fond, on n'apprend pas beaucoup ça aujourd'hui. On est dans un langage mathématique. Et le langage mathématique a l'avantage de se retrouver dans toutes les sciences. On n'a pas un langage métaphysique. Le langage métaphysique, vous l'apprenez ici. Difficilement, vous l'apprenez ici. Si au bout de 6 mois, vous arrivez à distinguer le langage métaphysique du langage ordinaire de votre journaliste, du journal que vous pouvez lire. Dites-vous bien que le journaliste ne passe jamais sous point d'une lettre. C'est très curieux. Et c'est intéressant de faire l'analyse quelquefois d'un article de journal. Où est-ce qu'il se situe? Quel est son fondement réel? Est-ce que c'est l'expérience ou est-ce que c'est tout simplement l'opinion? On m'a dit ça. J'ai entendu ça au coin d'une porte. Quelqu'un a dit ça. Alors je fais juste un article. Alors, ça repose sur l'opinion. Donc la vérité, je n'en sais rien. Est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien. Alors a-t-on le droit de répandre une opinion sans savoir s'il est vrai? On n'a pas le droit. Parce qu'une opinion peut détruire la bonne renommée de quelqu'un. Ah, vous n'avez pas le droit de vouloir la détruire. Oui, c'est terrible, un monde dans lequel il n'y a plus de vérité, il n'y a plus qu'un langage d'opinion. Alors les gens ne savent plus où est la vérité. Et au bout d'un certain temps, puisque eux ne savent plus où est la vérité, il n'y a plus de vérité. L'évidence des choses ou le manque de la signification d'une réalité fait qu'on demande d'abord qu'est-ce que c'est? Pourquoi l'intelligence ne dit-elle pas naturellement ceci est? Et puis qu'est-ce que c'est? C'est parce que l'opinion passe toujours avant. On vit un monde d'opinion. C'est très curieux parce que alors on touche un problème qui va très loin. On vit un monde d'opinion qui n'est pas réel. Le cinéma, c'est un monde fabriqué par l'homme, l'opinion. Fabriqué par la multitude. Alors l'homme s'y trouve à l'aise. Devant le réel, la réalité, l'homme est obligé de se soumettre. C'est pour ça que saint Thomas dit que Jésus a été enseigné par la nature des choses, l'expérience directe, et pas par l'enseignement des hommes. Quand vous êtes instruit par l'enseignement des hommes, même un enseignement métaphysique, pourtant l'enseignement métaphysique essaie d'être toujours conforme à la réalité. Alors, par un enseignement métaphysique, vous ne quittez pas la réalité. Vous ne devez pas la quitter. Mais un enseignement qui n'est pas métaphysique, qui est mathématique. Vous entrez dans le monde mathématique. Est-ce que ce monde mathématique est réel ou pas? Autre chose. Là, vous sortez des mathématiques. Le monde des mathématiques, on ne sait pas si... C'est le monde mathématique. Il est vrai dans le monde mathématique, mais la vérité du monde mathématique n'est pas adéquation de l'intelligence avec la réalité. Vous n'atteignez pas la réalité qui existe. Vous ne l'atteignez plus. Vous restez dans l'être mathématique, la relation. Et la vérité, c'est l'harmonie avec ce qui est déjà connu avant. Il y a une possibilité de voir la relation de cela, et ça augmente par des relations. Oui, il faut arriver à distinguer le jugement d'existence, l'opinion des hommes, l'expérimentation et la connaissance mathématique. Et ça, on peut arriver à distinguer, c'est du reste. La philosophie nous permet de faire cette distinction. Quand vous enseignez les mathématiques ou que vous restez dans les mathématiques, on reste uniquement dans les mathématiques. Vous posez la question, ah, qu'est-ce que ça représente de réel ? Ce n'est plus les mathématiques, ça. C'est la philosophie. Le philosophe se pose, qu'est-ce qu'il y a de réel là-dedans ? Et ça joue beaucoup. L'historien dit, je vous dis la vérité, ah, sur quoi repose la vérité de l'historien ? Sur les documents. Donc c'est en raison des documents qu'il a. Mais les documents, est-ce qu'ils sont adéquats à la réalité ? Ah, pas toujours. C'est un document, c'est quelqu'un qui a vécu la Révolution française, quelqu'un qui a vécu une guerre, exprime ce que lui a vu, ce que lui a senti. Et il exprime ça. Et il essaie d'exprimer comme étant une partie de la vérité. Pour lui, ça a été la vérité. Pour lui, la guerre a été ça. Et ça sort de documents. Et l'historien, puisqu'il n'a pas vécu cela, un historien qui a vécu lui-même l'événement le note. Voilà ce que j'ai vu. Autrement, il se sert de documents, référence, et il vous renvoie la référence. Donc tout ce qu'il dit repose sur le document. Alors, il faut voir si ce document est objectif ou s'il est tout simplement l'expression de quelqu'un qui a vécu dans la terreur et qui exprime cette terreur qu'il a vécue. Alors, qu'est-ce qu'il y a de vérité là-dedans ? Une petite parcelle de vérité ? Cette terreur, c'est alimenté de quelque chose qui est vrai. Mais il y avait à côté de lui un autre qui n'avait pas du tout la même sensibilité, la même imagination. Il a vécu autrement. Vous voyez ? Quand on vit un événement important, on le vit en fonction de ce que nous sommes. Mon voisin, il le vit aussi en fonction de ce qu'il est. Donc il y aura deux prismes différents. Et ça ne me scandalise pas. Mais je ne vais pas dire c'est mon voisin ou bien un troisième dira j'aime mieux le récit de mon voisin, j'aime mieux. Je l'apprécie subjectivement, j'aime mieux. Ce récit me paraît plus authentique. Et c'est lui qui a l'estimation. Mais comme c'est difficile à la recherche de la vérité. La métaphysique ne repose pas sur les opinions. Par les opinions, elle regarde la réalité. Oui. La philosophie d'Aristote, par exemple, c'est la philosophie d'Aristote, de telle époque. Aristote cherche la vérité. Je lis Aristote, la métaphysique d'Aristote. Je n'ai plus du tout les mêmes expériences qu'Aristote, bien évident. Mais ce que dit Aristote, ou je prends ce que dit Aristote pour la vérité, ou je me sers de ce que dit Aristote pour expérimenter la vérité, la réalité. Oui. Alors quand on dit on s'inspire d'Aristote, oui, on s'inspire, on ne le copie pas, on ne le répète pas. Il nous apprend à voir la réalité. Il nous apprend à regarder la réalité. Et si je suis un historien de la pensée d'Aristote, j'essaie de saisir qu'est-ce qui a été ce qui a permis d'unir sa pensée. Quelles sont les clés qui unissent sa pensée et qui permettent de tout comprendre? Oui, c'est très différent comme perspective. Un historien essaie de saisir le système de l'auteur. Qu'est-ce qui a permis à Aristote de donner son idée? Je dis, c'est l'analogie de l'être. Et je montre que c'est bien l'analogie de l'être qui... Alors, l'analogie de l'être, est-ce que moi je la découvre? Je la cherche, mais Aristote m'apprend à être attentif à l'expérience. Et en tant qu'il m'apprend à être attentif à l'expérience, Aristote disparaît. C'est l'expérience qui m'a dit ça. C'est ce que j'ai moi-même expérimenté et que j'ai saisi. Aristote m'a conduit à cela, m'a éveillé à ça. En faisant un tout petit peu d'Aristote, je vois que la scolastique commence par les transcendentaux. Je me dis, mais c'est impossible. Les transcendentaux, c'est un sommet. Les transcendentaux, c'est un aspect de critique ultime. Donc je ne peux pas commencer par ça. Donc je suis obligé de voir comment j'aboutis aux transcendentaux, par quelle expérience. Et en faisant ça, je dis, je suis disciple d'Aristote, mais je ne dis pas la pensée d'Aristote. Je me sers de ce que lui-même a connu et je me mets à son école. Autre chose, être à l'école de quelqu'un, autre chose, être son historien. Vous voyez, ceux qui veulent être historiens d'Aristote et qui n'ont pas compris la pensée d'Aristote, ce qui arrive très souvent, on s'en aperçoit tout de suite, sont des mauvais historiens de la pensée d'Aristote. Parce que ce qui était principal chez lui, ils n'ont pas compris. Et il regarde Aristote uniquement en fonction des livres qu'il a écrits. Ce sont les livres qu'Aristote a écrits qui nous font comprendre Aristote. Mais il faut comprendre ce qu'il a dit. Il faut soi-même avoir fait l'induction de la substance pour comprendre la métaphysique d'Aristote. Et ce n'est pas commode. Il faut soi-même avoir découvert ce que c'est que l'acte pour avoir compris Aristote. Oui, il faut arriver à distinguer dans notre intelligence l'historien du philosophe. Alors, vous voyez pourquoi l'intelligence ne dit pas naturellement ceci est. Elle le dit naturellement, mais il faut le redécouvrir. Je me souviens d'un petit événement simple à la Sorbonne, où j'avais été devant un de nos frères qui passait son doctorat. Je m'étais bien placé en face du jury et je regardais le jury. Ça m'intéressait beaucoup, voir comment ils interrogeaient. Alors je voyais un qui tout le temps venait dessus. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par le jugement d'existence ? Un examinateur de philosophie qui ne savait pas ce que c'était que le jugement d'existence, il ne voyait pas ce que c'était. Pourquoi ? Parce qu'il était purement idéaliste. Vous voyez, il n'y avait que le ceci qui l'intéressait. Ceci est, ah, ça m'échappe. Donc il était husserlien, uniquement. La mise entre parenthèses, oui. Alors quand vous dites qu'au contraire, ceci est le jugement typique, évidemment, il ne comprend pas. Oui. Alors, très vite, quand on est quand même habitué à une pensée philosophique, vous voyez tout de suite les grands tournants. Il y a le grand tournant, ceci est, jugement d'existence. C'est la base. Tant qu'on n'a pas compris la base, ne construisons pas. Donc, essayons de comprendre ceci est. Toute ma philosophie, toute ma métaphysique est fondée là-dessus. Donc, il faut arriver à saisir la différence entre ceci et ceci est. Si on ne voit pas la différence, il faut se demander pourquoi on ne la voit pas. Mais c'est très élémentaire, hein. Je crois que je faisais le compte en disant « Levez la main tous ceux qui disent que ceci et ceci est la même chose. » Je crois que je ne ferai pas beaucoup de mains levées ici. Mais je vous dis, c'est un professeur qui enseignait la philosophie et qui revenait tout le temps là-dessus. Alors les étudiants étaient agacés. C'est dit, vous mettez une différence, lui n'en met pas. Pourquoi ? Donc il fallait se confronter, chien et chat. Mais ici, tous les professeurs disent qu'il n'y a pas la même chose entre ceci et ceci. Donc il n'y a pas possibilité de la confrontation. Mais pourquoi nous disons tous qu'il y a une différence entre ces... Parce que nous acceptons qu'il y a l'appréhension et le jugement. Et j'insiste parce que c'est très important de comprendre que notre philosophie repose sur le jugement d'existence. Le jugement d'existence est toujours présent à la philosophie, à la métaphysique. Toujours présent. Parce qu'autrement, je ferai la métaphysique du possible. Ceci peut exister. Et ceci peut très bien ne pas exister. Ça dépend ce que ceci signifie. Donc je suis en face d'un élément tout à fait premier, et cet élément premier a été oublié chez toute une part de la philosophie. Alors c'est intéressant de voir où ce jugement d'existence est oublié, et pourquoi il est oublié. Quelle était l'influence plus grande qui a agi pour voir que ceci et ceci est. C'est la même chose. Donc, je dis, toute la métaphysique repose sur ce jugement d'existence, ceci est. Et je prends exprès le jugement d'existence dans ce qu'il a de plus simple. Ceci, c'est n'importe quoi. C'est tout ce qui est, toute détermination, Et ceci peut très bien ne pas exister. Vous pouvez avoir une idée de ceci, un animal extraordinaire que vous avez eu dans un rêve. C'était ceci, cet animal, ce chien qui me poursuivait, ça c'est un chien. Et quand c'est pas un chien, c'est un autre animal que vous avez imaginé, que votre imagination a pris au cinéma. Alors oui, ceci est. Et puis, vous avez eu une frousse intense dans votre rêve, dans votre cauchemar. Puis vous vous réveillez et dites, ah, c'est un rêve. Et vous respirez. Parce que si c'est un rêve, le jugement d'existence n'existe pas. Vous voyez, si vous êtes sans distinction de ceci, votre philosophie devient tout de suite imaginaire. Parce que ceci est, c'est le réel. Ceci peut très bien être imaginatif. Peut-être extraordinaire, mais imaginatif. Donc, votre philosophie quitte le réel et tombe dans les choses les plus extraordinaires. Et on est philosophe si on a découvert une nouvelle relation. Quelque chose qu'on n'a pas dit. On n'avait pas dit avant Husserl, l'époque consiste en la mise entre parenthèses de l'être. Oui, on le faisait en mathématiques. En mathématiques, on ne se posait pas la question de savoir si ça existe ou pas. On le faisait en mathématiques parce qu'on... On était uniquement en face de la relation. Or, la relation peut être une relation de raison. Elle n'existe pas nécessairement. Raison ou imaginative. L'imagination fait des relations magnifiques, très étonnantes, et des choses très originales. L'imagination, quand on se laisse aller, l'imagination fait des choses très originales. Personne n'a pensé à ça. Je suis un génie. C'est imaginatif. Est-ce qu'on est un génie par l'imagination? Non. On peut être un grand poète. Ah oui, oui, oui. On peut être un grand poète, étonner magnifiquement les gens par des relations nouvelles. Hein, on n'avait jamais pensé à cette relation. Et vous les mettez-vous en lumière? Alors là, oui, c'est quelque chose de nouveau. Vous pouvez avoir une intuition. L'intuition porte sur la relation. L'expérience porte sur le réel. Tandis que l'intuition porte sur les relations. Vous avez une intuition. Est-ce que c'est réel? J'en sais rien. Mais l'intuition est belle. Ah! L'intuition est belle. C'est intéressant. Votre découverte de cette nouvelle relation, c'est intéressant. Ça vaut la peine de la creuser et de voir tout ce qu'elle peut donner. Mais vous êtes peut-être dans l'imaginaire pur et simple. Si vous avez une imagination très fertile, vous inventez tous les jours de nouvelles imaginations, de nouvelles relations. Et vous restez toute la journée à remuer cette... C'est ça, un être, quelqu'un qui vide de son imagination. Il n'est jamais dans le réel. Vous le réveillez, mais regarde la réalité, comme est-ce que ça existe, ton imagination. C'est très intéressant, mais ça n'existe pas. C'est purement toi, dans l'imagination, qui dit ça. Ça arrive constamment, ça. Vous voyez ? Alors, des quantités de philosophie reposent sur l'intuition. Or, quand elle repose sur... Platon, ça repose sur les intuitions. Les idées en soi, c'est une invention extraordinaire. C'est une invention extraordinaire. Et c'est beau. Mais le seul inconvénient, c'est que ça n'existe pas. Donc vous avez une philosophie qui part sur les possibles. Donc c'est pour montrer l'importance de ce petit jugement d'existence, le plus petit des jugements, le plus faible de nos jugements, mais le plus profond. Ceci est. Dieu est. Je suis. Alors, c'est justement ça que je voudrais montrer. Je voulais le faire aujourd'hui, tant pis. La différence entre ceci est et je suis. C'est important. Est-ce que ma philosophie va commencer par je suis? Ou voilà, ma philosophie commence par ceci est? Là, c'est intéressant. Vous voyez, ce point de départ de la philosophie est capital. Bien, bien, le fondement, c'est très important. On y revient constamment. Bon, il y a des quantités de philosophes qui commencent leur philosophie par « je suis ». Si j'étais Dieu, je pourrais dire « je suis » comme fondement de toute chose. C'est réservé à l'être premier, je suis. Moi, quand je dis je suis, oui, c'est important, c'est évident que c'est important. Mais je ne vais pas faire une métaphysique de moi-même. Alors, je ne ferai pas la métaphysique de l'autre.